aujourd'hui la masterclass de Raymond Depardon avec Antoine Guillot.
Raymond Depardon, photographe, cinéaste, écrivain, 60 ans d'images et d'histoires depuis les photos de la ferme du Garret, la ferme de vos parents, à Villefranche-sur-Saône, des photos que vous aviez prises avec un appareil 6x6, je crois bien, hein, de marque Lumière, je me suis renseigné, offert par votre grand frère, et puis des premières commandes de c'était des footballeurs amateurs, je crois, qui vous avaient demandé d'être photographié par vous. Vous avez été photoreporter, reporter de guerre, vous avez photographié des stars et des Jeux Olympiques dans les années 60. Vous avez cofondé l'agence Gamma et puis vous avez été un des piliers de l'agence Magnum quand vous avez quitté l'agence Gamma. C'était les suites, on dira, de la mort de votre ami Gilles Caron, grand reporter et mort au Cambodge dans l'exercice de son métier. Alors de photoreporter, vous êtes devenu photographe, un photographe nomade. Et puis de vos photographies, vous avez fait plusieurs livres et des grands livres, des livres comme Notes, comme Correspondance new-yorkaise, Détour ou Errance. Il y en a une trentaine comme ça, je vais pas tous les citer, des livres où souvent vos images dialoguent avec des textes que vous écrivez, des textes succincts souvent, mais très poétiques. Et puis il y a l'œuvre évidemment cinématographique immense, grande œuvre de cinéaste. Alors inaugurée là encore sous le mode du reportage, ça a commencé au Venezuela en 1963. Vous parliez déjà à l'époque d'un pays riche peuplé de pauvres. Et puis cette œuvre donc poursuivie avec des piliers du cinéma direct à la française comme 50,81% sur la campagne présidentielle de Giscard. Alors on pourra le voir ce film qu'en 2002, alors qu'il avait été tourné en 1974 sous son nouveau titre 1974, une partie de campagne. Et puis il y a eu Numéro Zéro et Reporter qui était sur le monde de la presse et du reportage photographique, des grands films sur l'enfermement, sur la folie, sur le système judiciaire, San Clemente et Urgence d'un côté, Faits divers, Délit flagrant, Muriel Leferle, Dixième chambre, Instant d'audience de l'autre, jusqu'à ce dernier film en date qui réunit ces deux mondes, ces 12 jours qui avaient été présentés au Festival de Cannes. Et puis évidemment votre trilogie paysanne, Profil paysan, comme un retour à l'enfance et ce que vous n'aviez pas eu le temps ou le courage de filmer à l'époque. Et puis encore ces films qui se situent à la frontière entre fiction et documentaire, comme Empty Quarter, Une femme en Afrique, et puis Paris. Et un film là, franchement, de fiction, La captive du désert en 1989. Et puis Le désert, dans ce film et dans d'autres, il acquiert une présence dont on sait qu'elle est toujours là, quelque part, chez vous. Et puis, pour finir, il y a encore le photographe et cinéaste arpenteur à bord de votre camping-car aménagé en studio, où vous arpentez la France, ses habitants, son territoire, depuis cette commande de la Datar que vous aviez détournée pour retourner photographier la ferme du Garret. Et puis, les films plus récents que son Journal de France et Les habitants. Le tout donne une œuvre qui aime beaucoup le temps faible, hein, le temps mort même par moment. Alors sur quelle pratique, sur quel questionnement se fonde et se poursuit cette œuvre? Comment s'articule chez vous la photographie, le cinéma et l'écriture? C'est ce que nous allons essayer d'explorer dans cette heure. Raymond Depardon, on va s'appuyer particulièrement sur ce dernier film dont j'ai parlé, 12 jours. C'est le délai légal, je le rappelle, depuis la loi du 27 septembre 2013, pendant lesquelles doivent être présentés aux juges des libertés et de la détention les patients hospitalisés sans consentement dans les hôpitaux psychiatriques. On parlera aussi de votre complicité de longue date avec Claudine Nougaret, avec qui vous avez fait ce film. Vous avez posé vos caméras donc dans la salle d'audience de l'hôpital du Vinatier à Lyon. Vous avez retenu 10 patients dans leur face-à-face avec le juge. Et puis on s'appuiera également, pour ceux qui ont pu voir cette exposition, sur l'exposition Traversée qui a eu lieu fin 2017 à la Fondation Henri Cartier-Bresson. Il y a un très très beau livre qui est sorti, qui accompagne cette exposition. Alors on pourrait peut-être commencer par une première question après cette longue introduction, Raymond Depardon. Je l'ai dit, ça fait 60 ans que vous créez des images. Est-ce que vous avez compris à force pourquoi vous aviez ce besoin de créer des images et d'en prendre et de les montrer?
Bonjour. Non, toujours pas. Je crois pas. Mais peut-être qu'il vaut mieux pas, parce que je sais que je suis plutôt heureux quand je fais des photos et surtout quand je les découvre. Bien sûr, quand elles sont bonnes. Ça, c'est toujours un grand plaisir. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais en tous les cas, c'est... Non, mais j'aime bien aussi la prise de vue. J'aime bien... C'est un métier... Alors, concernant la photographie, c'est quand même un truc assez surréaliste, quoi, parce que quelquefois, on vous paye pour aller faire des photos, et quand même, faire des photos, c'est quand même pas un acte d'une très grande importance, et à la fois, ça peut le devenir, effectivement. Alors, donc, ça nécessite pas mal de choses, donc effectivement, une introspection de soi-même, bien sûr, parce que c'est une motivation qui est nécessaire, parce que quand même, à la fois, je disais, c'était peut-être une situation un peu paradoxale et surtout surréaliste, mais c'est quand même assez difficile aussi de travailler avec le réel, parce qu'il n'est pas très saisissable. Et c'est vrai que quand on rentre dans sa chambre d'hôtel comme ça et qu'on met ses bobines sur la table de chevet, on ne sait plus ce qu'on a fait dans la journée. On ne sait pas si c'est Saint-Christophe, je ne sais pas quel est le saint qui pourrait représenter le photographe. On dit peut-être que là-dedans, il y a une bonne photo, quoi. Bon. Mais c'est vrai que c'est quand même... Je crois que c'est William Klein qui avait analysé peut-être 10 bobines faites au Leica. Ça ne représentait que 2 secondes, quoi, 3 secondes ou 5 secondes, quoi, parce que c'est un 250e de seconde. Donc c'est très peu. Donc c'est vrai que là, ça me rappelle un peu... Effectivement, mes racines et ma terre natale, qui est celle des paysans et de mon père surtout, qui était lui aussi peut-être quelque part, même si la photographie est très différente de l'agriculture, mais un point commun qui est de travailler avec le réel, donc qui est quelque chose qui échappe. Bon, voilà. Donc je voyais bien que moi, j'ai toute mon enfance, il était là à dire, bah oui, c'est pas... C'était toujours un peu en retard, c'est malgré toutes les caricatures, et notamment on en a eu beaucoup sur l'agriculture, en retard, en avance, et donc on maîtrise pas. Et c'est vrai qu'il regardait beaucoup les histoires de lune, ce que nous faisons plus maintenant pour faire une photo quand même. Bon. Peut-être que la lune joue un rôle aussi. Hein. Et c'est vrai que voilà, c'est travailler avec le réel, c'est assez c'est déconcertant. Et c'est vrai que la première fois que j'ai fait une fiction, entre guillemets, c'est La Captive du désert, j'avais deux lieutenants habitués à ça, un assistant et un directeur de production, et ils m'ont dit, voilà, tu vas faire 20 plans par jour et tout va bien se passer. Et c'est vrai que le découpage est une chose qui est plutôt rassurante. C'est assez désagréable. Enfin, c'est assez agréable parce qu'on se dit, tiens, on va un peu commencer par la fin, etc. Mais le réel... Alors, moi, heureusement, c'est vrai que dans mon cinéma et dans ma photographie, j'ai l'habitude quand même un tout petit peu de commencer à l'envers. Et alors, j'ai il y a des moments, des principes, effectivement. Je sais pas si je peux dire pourquoi aujourd'hui j'aime la photographie. Sans doute qu'elle m'a, bien sûr, sauvé la vie. Je pense que, de par mes origines, ça j'en suis certain, j'aurais difficilement supporté des liens de subordination. Faut le dire tout de suite. Les paysans, ça n'a pas de chef, quoi. Bon, voilà. Donc si j'avais travaillé dans un bureau, j'aurais été un peu malheureux, quoi. Voilà. Et je le vois parce que on le voit encore, c'est très présent encore, ça. Ces histoires de liens de subordination. Je le vois parce que je travaille dans une agence qui est Magnum. Je travaille avec des amis qui sont cinéastes autour de moi. Je vois bien que ils ont besoin de se faire rassurer. Ils ont besoin d'instructions et moi je peux pas toujours leur en donner parce que je sais pas. Donc c'est quand même un truc qui est fondamental parce que rejoignent les paysans, les bourgeois aussi sont un petit peu comme ça, les professions libérales, c'est-à-dire que les docteurs, les dentistes, enfin toutes les professions libérales, eux, de province particulièrement, mais à Paris aussi, eux non plus n'aiment pas les liens de subordination. C'est-à-dire que ça fait quand même les paysans et les bourgeois, et ça fait beaucoup de la quintessence française, est représentée là, qui fait que cette liberté, et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Et moi, ça me gêne pas de dire peut-être que je ferai une image aujourd'hui, et encore, je suis pas sûr qu'elle soit bonne, mais quand on planifie le travail, c'est toujours un peu délicat. Alors donc le plaisir vient de tout ça, C'est un petit peu en vrac, c'est un petit peu décousu ce que je vous dis, parce que c'est compliqué, mais je peux rentrer dans le détail avec plaisir.
Vous dites que vous allez peut-être faire une photo aujourd'hui. La photographie doit être une pratique quotidienne.
Oui, je crois beaucoup à ça. Parce que en fait, bon, au début, moi, je sais que je savais pas faire de photos parce que je savais pas, au fond, regarder. Je savais pas. Je sais pas pour le peintre, mais je crois que c'est la même chose. En fait, on s'imagine qu'il s'enferme dans son atelier et d'un seul coup, il a l'idée de faire son tableau. Je pense que ça vient tout doucement. Et en tous les cas, la photographie, là où elle est complètement différente de la peinture, c'est que, bah, si t'es, moi, ça m'est arrivé quelquefois de pas avoir d'appareil ou de la rater, et bon, bah, voilà, je suis un peu triste. C'est aussi une idée, peut-être, de, c'est très étrange, le photographe, parce que c'est quelque chose qui lutte contre le temps qui passe. On travaille beaucoup avec le deuil. Et particulièrement la photographie. Moi, je vois parce que je suis obligé toujours de confronter à choisir mes photos. Je passe un bon tiers de mon temps à choisir mes photos, à revenir sur le choix de mes photos, à revenir sur du passé. Et c'est dur. Il y a des moments, c'est dur. Et donc, le deuil, il commence dès la prise de vue. Donc, tac, t'as fait une photo, c'est fini. Bon, tac, c'est passé. Ce qui n'est pas le cas du cinéma. Le cinéma, j'ai l'impression qu'avec le montage, le son, on est toujours dans une grande présence continuelle. Ça dure longtemps, quoi.
Bah, d'autant que vous faites des plans longs. Oui, oui. Souvent, vous avez un goût pour le plan séquence auquel vous êtes exercé très tôt. Aussi, et là, c'est une question justement d'éviter ce deuil et d'avoir la possibilité de faire passer du temps dans l'image.
Oui. Alors pourtant, les choses sont très différentes parce que là, la photo, il faut aller très vite. C'est une fraction de seconde. C'est pas forcément. Moi, je suis pas dogmatique de cette méthode, mais néanmoins, je sais que, et plus particulièrement, quand on s'approche des gens relativement modestes et qui sont pas habitués à se faire photographier, il faut aller vite. C'est-à-dire que ça peut être des paysans en Lozère, ça peut être des gens sur l'Altiplano, ça peut être des gens sur les routes d'Éthiopie, qui ont beaucoup de points en commun, d'abord les plateaux, et ce sont des paysans. Et de faire une photo d'eux, c'est on peut pas parler. Enfin bon, avec un paysan, c'est nul, on peut parler quand même. Mais c'est vrai que je sais d'expérience qu'il faut aller très vite et dégager vite. Enfin, tu fais une photo et t'insistes pas. Et c'est comme ça que tu peux avancer, même si tu reprends ton appareil quelques minutes plus tard. Mais il y a des moments, faut laisser un petit peu d'air. Et je sais que dans les écoles photo, on t'apprend pas ça, quoi. On t'apprend pas du tout cette approche-là. Il faut être très. Moi, je pense que il faut pas insister. Et les gens sont habitués à. Il y a un problème moral. Parce que la morale joue un rôle comme ça. C'est-à-dire que si tu photographies les gens, faut leur parler. Bien sûr, parce que bon. Mais si tu parles et tu fais des photos, ça va pas en même temps. Donc voilà. Donc il y a pour moi un problème. Donc à la rigueur, tu peux parler et faire des photos. Mais moi, je le voyais très bien avec les paysans Cévenols. J'avais toujours mon appareil bien avant que je tourne. J'avais mon appareil et j'étais déjà un petit peu frappados, quoi, pour eux. Mais pourquoi vous gardez votre appareil? Ah oui. Parce que l'appareil photo est quelque chose qui montre bien qui on est. Il faut toujours dire qui on est. Voilà. Moi, je suis photographe. Bon, je me souviens même, à cette époque, c'est pas très vieux, mais, bon, vous savez, je reprends la phrase de Buster Keaton, on commence à être connu quand un paysan tibétain s'est appelé votre nom. Bon. Donc, ça relativise quand même. Donc, il me disait, mais vous êtes vieux, vous n'êtes pas connu, et comment ça se fait que vous faites toujours des photos? Bon, donc, il me testait un peu comme ça. Et j'avais fait une erreur tout à fait, je ne m'y attendais pas. J'avais accepté du gouvernement de faire des campagnes pour la sécurité routière. Et alors, je suis apparu dans le Midi Libre et dans la montagne, et dans un certain nombre de régions comme ça, Raymond Depardon fait la campagne. Et alors, ils m'ont dit, mais dites-moi, vous êtes connu parce qu'on voit que votre nom, vous faites la campagne de la sécurité routière. Je dis, oui, oui, mais vous savez, c'est une commande et tout. Donc, c'est vrai qu'il faut... C'est une approche très complexe. Et je sais qu'il y a des jeunes photographes, ou des cinéastes surtout, ils viennent sans appareil, comme ça. Ils discutent pendant très longtemps parce que ça leur fait du bien. Là. Moi, je suis pas toujours partisan de trop discuter avant. Je trouve qu'il faut, et c'est ce qu'on avait voulu faire sur les paysans, il y a un film qui s'appelle L'Approche, parce que c'était tendu, quoi. Et quand vous arrivez avec votre caméra, alors les gars, ils disent, mais attendez, il y a tromperie, là. Moi, j'ai accepté de vous parler avec vous, mais pas avec 10 techniciens ou des le matériel d'une caméra. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours mon appareil photo. C'est pour qu'ils s'habituent déjà un peu. Et il y en a un paysan qui m'a dit, mais c'est comme votre fourche, quoi. Ben, j'ai dit, oui, un bâton, une fourche, après tout. Non, mais c'est important. Donc, même si on a l'air de clown, un peu. Bon, voilà. Et je me souviens même quand on a tourné les paysans, à un moment donné, dans une cuisine, ils se sont beaucoup disputés devant nous. Et comme ils étaient habitués à nous voir, avec Claudine, on était tous les deux. Et je sais pas pourquoi, la caméra est tombée en panne. On l'a réparée, elle est retombée en panne. Donc, vous voulez vraiment pas filmer ça. Et puis, à un moment donné, on s'est disputé tous les deux avec Claudine, je sais pas pourquoi, et ça les a rassurés. Ça leur a fait du bien. Ah, j'ai dit, vous aussi? Vous vous disputez? Donc, c'est vrai que c'est peut-être une question, voilà, de faire attention à jamais dominer les gens qu'on photographie et d'être un tout petit peu si, dans des milieux comme ça, moi je connais pas de milieu plus difficile que le monde rural, hein, parce que voilà. Moi je me souviens, il y avait un paysan à côté du pont de Montvert, et par un facteur j'étais venu le voir, et il m'avait dit, il avait des bœufs. Quand même, bon, on était en 99, il n'y en avait quand même pas beaucoup encore, et il me dit, on était à Toussaint, et il me dit, bah écoutez, venez pour Pâques. Donc ça fait quand même un paquet de temps. Je lui dis, très bien, je viendrai à Pâques. Donc c'est vrai qu'il faut... C'est pour ça que j'évite toujours des assistants qui regardent la scène se tourner, quoi. Parce qu'il y a des faux regards, etc. Et toute la science, par exemple, de Claudine qui fait le son, ça a l'air de rien, elle regarde pas les gens qu'on filme avec la perche. Et pourtant, ils cherchent. Parce que quand les gens, des fois, c'est désespérant, c'est dur. Et moi, je suis derrière la caméra, donc j'essaye de sortir un peu l'œil de la caméra, mais pas toujours. Et puis, ils disent, vous comprenez, je sais pas quoi. Et puis, ils cherchent, les gens, un regard. Et il faut pas qu'ils regardent l'ingénieur du son. Ils seraient trop contents de voir. Et alors là, ça ferait un regard bizarre à droite. Donc tout ça, ça a l'air de rien tout ça, mais c'est très très compliqué, c'est très fragile, que ça soit en photographie ou en cinéma, c'est ce réel-là, pour qu'il vous arrive à vous, spectateurs, ou à nous, lecteurs, ou peu importe, avec toute sa force, et que vous vous sentiez pas pris en otage par un voyeurisme, par un chantage ou par un exhibitionniste aussi, par quelque chose, c'est très compliqué. C'est vrai. Je crois qu'il n'y a pas de règle, mais personne n'a vraiment défini ça. Alors en photo on peut aller vite, mais en cinéma on ne peut pas, puisqu'on est là devant les gens. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je continuerai toujours toute ma vie à faire. Alors récemment, en photo, j'essayais de partager. Je faisais souvent des voyages assez courts en photo. Là, je rentre du Japon et j'ai fait une semaine. Et voilà, je découvre le Japon une semaine. Sinon, après, c'est 6 mois. Bon, voilà. Bon, je passerai bien 6 mois au Japon. Mais si, voilà. Et donc, les premiers regards, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à l'instinct de l'opérateur. Je pense que si on reprend tous les grands opérateurs, ils étaient très instinctifs.
Là, je vous cite, vous aviez fait un film auto-réflexif sur votre première moitié de carrière, on dira, c'était dans les années des clics, un film que vous aviez fait pour les Rencontres d'Arles en 1984, et vous citiez le grand cinéaste du cinéma direct américain, Richard Leacock, qui disait « Les photographes font les meilleurs caméramens car ils ne sont pas préoccupés par la beauté de leur panoramique ou de leur travelling ». Et ça, c'est quelque chose que vous avez ressenti dans votre approche du cinéma à cause de ce que vous aviez fait en photographie ?
Oui, c'est vrai que j'ai été nourri. Moi, je suis arrivé à la décolonisation de l'Afrique. Je suis arrivé au cinéma vérité, au cinéma nouvelle vague. Donc, effectivement, j'étais passionné par tout ce qui se passait. Et je pense que en documentaire, effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer Chris Marker ou Jean Rouch, qui étaient des personnages très différents, plutôt les Français, parce que les Américains, on les voyait pas. Et c'est vrai que ils avaient quelque chose Chris Marker, c'était quelqu'un d'assez impressionnant quand même. Bon, moi je regrette de ne pas l'avoir photographié, mais il voulait pas trop qu'on le photographie. Et Jean Rouch aussi. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'ils m'ont inculqué qu'il fallait que ça soit que je fasse du cinéma au fond comme une que je ça soit ma danseuse, le plaisir. Romère aussi était comme ça, c'est-à-dire prendre du plaisir. Si on prend pas de plaisir à faire ça, il faut faire un autre métier. À la rigueur, gagner sa vie avec autre chose et puis prendre du plaisir. Prendre du plaisir dans le fait de filmer, quoi. Et c'est pour ça que peut-être ça m'a sauvé la vie, parce que quelquefois j'ai gagné ma vie en faisant des photos, dont je suis pas très fier. Quelquefois, des princesses, des mariages, des trucs comme ça.
Brigitte Bardot,
visites officielles,
planquée dans une grange.
Et ça me permettait de faire des films que je voulais, les petits films. J'ai commencé par des petits films, puis les longs, après plus loin, et aujourd'hui encore. Et peut-être là, ça s'inverse, parce que maintenant, je décide aussi de faire en photographie, que la photographie soit ma danseuse aussi, c'est-à-dire de prendre du plaisir d'aller dans des endroits que j'aime bien. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais Raymond, il faut absolument qu'on se voit au mois de mars. » C'était Jean-Luc Monterosso, le directeur de la Maison européenne de la photographie. J'ai dit « Mais au mois de mars, Jean-Luc, mais tu me demandes un sacrifice énorme. » Les mois de mars, j'ai 75 ans. J'en ai encore peut-être une dizaine, douzaine, je sais pas combien. Les mois de mars, c'est sacré. Donc voilà, il y a effectivement toujours quelque chose comme ça. C'est là où peut-être le photographe est très proche du paysan, parce que forcément on est obligé un peu de tenir compte des saisons, même si quelquefois ça joue pas. Mais voilà. Donc oui, c'est en fait, je dirais que j'essaie de mener de front ce qui est peut-être impossible, la photo et le cinéma. Alors, je sais que c'est un peu déconcertant pour beaucoup de gens. Mais j'avais l'impression que je dégageais plus de choses, même si je fais pas de films engagés, je fais plutôt des films où j'essaye de me mettre dans une position pas neutre, parce que j'aime pas ce mot, mais c'est compliqué, hein, quand vous tournez au palais de justice, là, il y a des délinquants et puis des juges, il y a des moments où vous avez envie de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, hein, parce que c'est complexe. Et moi, j'essaye de tenir cette position, cette distance. Et j'ai toujours donné, dans la photographie, j'ai toujours dit qu'il fallait à un moment donné que le photographe retourne la caméra sur lui. C'est pour ça les années des clics. J'ai toujours dit qu'il fallait donner la position par son corps quand on faisait une photo. Voilà. Et il fallait dire que ça. Alors, je le vois très bien parce que quand je suis avec les hommes politiques, je m'approche d'eux. Je suis en colère. Voilà, ils sont en attaque, ils serrent des mains, je suis au grand angle, et là j'y vais à fond, là j'ai pas de scrupules, là. Bon, voilà, on y va, voilà, et il y a une comédie, c'est la Commedia dell'arte, et puis c'est vrai que quand je suis sur une route en Éthiopie, je me recule aux 50, je m'approche pas trop des gens, je fais vite, je souris, et puis bon, voilà, j'apprends 2-3 mots de la langue du coin, et puis je vais vite, Et puis, voilà. Et de temps en temps, je rate beaucoup de photos. Puis, de temps en temps, il y a le petit miracle. Donc, il n'y a pas les mêmes attitudes, effectivement, de différents. Alors, c'est vrai que, d'ordinaire, mes confrères, peut-être que vous, mes amis, qui sont de ma même génération, ils restent toujours ou à faire le même film ou à faire la même photo. Moi, j'aime bien improviser, avancer. Les gens se posent beaucoup la question à Claudine en disant « Est-ce que Raymond est en numérique ?» Pose comme ça, ils n'osent pas me poser la question. Et alors, elle dit « Non, je crois pas, parce qu'il arrive seulement à la couleur. » On a le temps encore. Donc c'est vrai, j'ai beaucoup photographié en noir et blanc, parce que je fais partie de cette génération qui a une photo noir et blanc, c'était la lettre de noblesse, parce que bon voilà, on avait nos pères, là, je sais pas quoi, les capas, tout ça. Et puis, en cinéma, je suis passé plus vite en couleur, parce que bah, les chaînes ne voulaient pas. Et puis la couleur faisait partie du dispositif. Un bureau d'un juge, là, pourtant, je sais, c'est pas très intéressant en couleur, mais c'est quand même, de temps en temps, il y avait une surprise d'une chemise de quelqu'un, donc ça faisait partie de l'anthropologie. Et on était très marqués, parce que je parlais de Jean Rouch et de Marker, mais en fait, je m'aperçois qu'on était très marqués par l'ethnologie à l'époque. Et on l'est beaucoup moins maintenant. Pierre Clastres, Lévi-Strauss, tout ça, c'était eux les meneurs. C'était eux les philosophes qui posait des questions. Bien sûr qu'il y avait Sartre, Deleuze et Guattari, et plus tard Derrida, bien sûr. Mais sans doute, il y avait aussi ces ethnologues. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que ça veut dire d'aller faire des photos dans les pays pauvres et de les ramener dans les pays riches, de publier ça, etc. Donc il y a deux premières pages dans Terre humaine, celle de Jem Hadji, dans L'où ont maintenant les grands hommes, où il se pose la question, parce qu'il travaille pour fortune sur trois familles de métayers pauvres blancs dans l'Alabama, en 1936. Il va pas de main morte, hein. Il dit, qu'est-ce que je fous là, quoi, payé par un groupe énorme et riche. Et puis, Lévi-Strauss aussi. Lévi-Strauss, triste tropique, la première page est magnifique. Parce que, il dit, voilà, qu'est-ce que l'occidental, etc., l'ethnocentriste, etc. Et donc, c'est vrai que ça a forgé chez moi, peut-être, sans doute, quelque chose d'un peu différent. C'est pour ça que, comme j'avais avec mon certificat d'études, quand mai 68 est arrivé, j'avais pas fait de lycée ni de collège, j'ai pas trouvé ça comme un événement primordial. Mais j'avais vu déjà beaucoup de pauvres avant, dans le tiers-monde. J'avais été en Algérie, et dans la période difficile, un peu avant l'indépendance, hein, où j'étais mal vu des pieds noirs et mal vu des Algériens. Qu'est-ce que je peux faire, quoi? J'étais malheureux. Et j'ai fait quelques photos. J'ai des photos très fortes de cette période, de cette rôle de juste avant 62, avant l'indépendance. Et puis en Afrique aussi. Les gens me prenaient à partie. Donc, bien sûr. Et à la fois, ils m'accueillaient formidablement, les Africains. Et puis, quelquefois, je me souviens, au Tchad notamment, où j'y restais beaucoup, j'y restais très longtemps. Et après avoir resté des mois avec des jeunes combattants du Frelinga, je me souviens d'un homme qui m'a dit « Qu'est-ce que tu veux que je te ramène quand je reviendrai ?» Ben, j'étais obligé de revenir. Et il me dit « Mais il y a un truc qui me ferait très plaisir, Raymond, c'est que tu me ramènes un livre en français. » Je me dis « Mon Dieu !» Ce gars, pendant des mois, il m'a parlé en français. Il a jamais vu un livre français. Il a appris le français avec un tableau noir au départ, dans des missions, tout ça. Et il parlait français, mais impeccablement. Je disais, mais c'est un scandale. Moi, je me rappelle, j'étais à l'ambassade de France, à N'Djamena. J'aurais dit, mais qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi vous ne donnez pas plus de livres à tous ces gens qui c'est incroyable? Parce que c'est pas du colonialisme, c'est simplement un effet, voilà, de culture. Et je me souviens, pendant l'affaire Close, il disait, bon, Giscard, oui, c'est un peu, bien sûr. Mais il y en a un qui a pas l'air commode, c'est Poniatowski. J'ai dit oui, peut-être. C'était le ministre de l'Intérieur. Non, mais cette perception est d'une fantastique force. Peut-être ça m'a fait rater la guerre du Vietnam, ça m'a fait rater plein d'autres choses, m'a fait rater des films. Mais l'Afrique francophone, l'autre jour, j'ai appris que en 2050, 85% de la population, les 85% qui parleront encore français à ce moment-là seront africains, quoi. Donc on est sauvé par l'Afrique, voilà.
Alors, pour revenir justement à la position et au dispositif, vous avez parlé de dispositif, c'est plus flagrant dans le cinéma par rapport à votre pratique instinctive de la photographie. Je voudrais savoir, premièrement, comment vient un sujet de film, comment vient une idée, est-ce qu'il y a des séries, et on a vu, je l'ai dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qui fait que vous allez revenir à des questions, par exemple, dans 12 jours que vous aviez abordées précédemment, et comment se pense la question du dispositif? Est-ce que vous faites des repérages qui fait que vous allez filmer tel film de telle manière qui ne sera pas celle d'un autre film? Est-ce que vous avez besoin de beaucoup repérer avant de faire un film, par exemple?
Non, pas beaucoup, ça. Il y a des fois, c'est pas possible. Par exemple, Délie Flagrant, c'était pas possible. Non. Je me suis aperçu quand même ce qui séparait vraiment profondément la photographie du cinéma, ce qui m'a sauvé la vie, c'est le son, les mots, la conversation. Donc, filmer une conversation. Donc, c'est la war room. Ça, c'est une définition du cinéma direct américain. Donc, ça, c'est tous les Américains. Donc, nous, ça n'existe pas chez nous. Il y en a peut-être une à l'Élysée, mais peut-être de temps en temps, ça marche, mais je crois pas. Eux, ils ont une grande définition. Il y a eu Pinney Baker à faire un film sur la War Room. C'est là où il y a tous les généraux et le président de la République vient et décide, bien sûr, d'une intervention ou pas. Voilà. C'est un immense pays, les États-Unis. Donc nous, voilà. C'est la concentration d'une pièce. Tourner un film dans une seule pièce. Et moi, j'avais été marqué par ça. Et je me suis dit, oui, c'est ça, la conversation. Filmer, comment filmer les conversations? Alors, ça peut être des conversations psychiatriques, ça peut être des conversations judiciaires, ça peut être des conversations comme l'avant-dernier film que j'ai fait tout à fait dans une caravane.
Les habitants.
Les habitants, dans une place de village. Ou le dernier, avec un juge d'instruction. Donc, cette conversation, je pense qu'effectivement, c'est pas tellement l'institution, mais je crois que la conversation est instructive. Elle nous amène quelque chose. J'ai fait quelques films sans conversation, mais alors quand j'ai fait par exemple Urgence avec Claudine à l'Hôtel Dieu, on n'avait jamais assisté à un entretien. C'est assez privé, mais on avait donc en fait on improvisait. Après, je me suis aperçu qu'en fait il valait mieux être sur pied. Après, je me suis aperçu que il y avait 10 mètres carrés où les gens passaient quoi. Arrivait et repartait. Et là, il y avait cette concentration complètement folle, quoi. C'est-à-dire, c'est en tournant des faits divers que je me suis aperçu que après le quart, qu'on ramassait les gens, les voleurs, tout le monde, les migrants sans papier, enfin, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mais tout ça, ça arrive dans une pièce. Et alors là, non, interdit de filmer. Et là, j'ai mis 7 ans. Et je suis tombé sur un procureur formidable, Monsieur Cotte, qui avait travaillé avec Badinter. Et 7 ans, j'y allais le voir tout le temps. Je me suis dit, il faut avoir cette pièce. Personne n'avait jamais vu cette pièce. Elle était sous le palais de justice, au sous-sol. Je me souviens qu'il y avait encore à l'époque Mitterrand qui se baladait, qui faisait qui achetait des vieux livres sur les quais. Je me disais, mais il est fou, quoi, d'être sous-sol, il y a quand même les gens. Là, tout ça. C'est quand même un nœud incroyable, l'Hôtel Dieu, enfin, l'île de la Cité, quoi. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les commissariats de Paris arrivent là, et pendant 10 minutes, un quart d'heure, on notifie aux délinquants, à l'arrêté, aux gens, et un substitut du procureur qui lui dit, voilà, vous allez être jugé, ou vous allez être convoqué, ça dépend. Et voilà, on vous reproche ça. La société vous reproche ça. Il y a un côté comme Saint-Louis, un peu comme ça, au pied de son chêne. Et donc, moi, j'arrivais pas à faire ce film. Et puis, j'ai eu l'idée... Enfin, avant, il y avait un greffier. Et je lui ai dit, à côté, je vais prendre la place du greffier et je serai de profil. Je vous propose de filmer ça de profil. Et là, il avait le texte, forcément, le code civil, et il y avait marqué « Les gens doivent rester anonymes, selon la loi ». Et il m'a dit « Après tout, est-ce que le profil, c'est pas anonyme ?» Oui. Donc, c'est un peu comme dixième chambre, le président de la cour d'appel. J'ai dit « Mais on peut pas tourner les... » En fait, ils étaient titillés, ils m'aimaient bien, je crois. Et je crois pas que ça soit des spécialistes de cinéma. Mais ils m'aimaient bien parce que j'étais pas quelqu'un qui arrivait avec un camion et des machinistes. Il y avait une équipe hyper légère. Il y avait, surtout des jeunes femmes habillées en noir. Ils voyaient rien. Parce qu'ils m'ont dit, vous perturbez rien du tout. Et c'est vrai que dixième chambre, il m'a dit, le texte, il prend le texte, Jean-Marie Coulon, et il dit, les audiences dans leur continuité sont interdites d'être filmées. Il me tourne vers moi, et là, j'ai pas senti le piège, parce que là, il faut être la haute stratégie. Il me dit, est-ce que vous allez couper? Et moi, un peu, oui, je dis, oui, je vais couper, je vais pas regarder tout. Il dit, bon, vous pouvez y aller. Parce que je fais des instants d'audience. C'est d'ailleurs marqué dixième chambre, instant d'audience. Donc, en fait, voilà, ces deux films restent uniques. Ils n'ont pas été refaits. Et du coup, je suis très content parce que le dernier a joué un peu en ma faveur, puisque c'est un psychiatre et un magistrat qui sont venus me voir, qui m'ont dit, vous avez déjà tourné deux films sur la psychiatrie et deux films sur la justice. Et je pense que l'école de la magistrature, c'est, parce que il faut savoir que l'école de la magistrature, donc, c'est une école à Bordeaux. Et je tiens à le dire, là, c'est quand même un peu gros. Marine Le Pen, quand elle a fait sa campagne, elle a dit la première chose qu'elle fera si elle est élue, c'est de supprimer cette école. Je sais pas pourquoi, mais bizarre, c'est ce qui forme les magistrats, quoi, bien sûr. Et ces magistrats, ils adorent mes films pour une raison très simple. C'est qu'il n'y a pas d'interview et il n'y a pas de commentaire. Parce que qu'est-ce que c'est un commentaire et un interview? Ben, moi, j'ai rien contre, mais c'est écrit. Donc, c'est passe par l'écriture. Et il faut bien savoir que le cinéma direct, comme je l'aime, c'est celui qui repose sur le dialogue, sur la parole. Et la parole n'a rien à voir avec la... Parce que c'est notamment les chercheurs de Palo Alto. Donc, moi, j'étais tombé il y a 20 ans sur ce... Ils m'ont dit, Raymond, tu fais de l'ethnométhodologie. Bon, donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, les chercheurs de Palo Alto, aux États-Unis, avaient étudié ça, effectivement, et s'étaient dit, il faut qu'on garde des traces de notre façon de parler. Une personne normale répète 7 fois la même chose. Vous voyez, je suis déjà un peu là, je commence à répéter 7 fois, là. Et voilà, donc, effectivement, dans les dialogues de films, de fiction, que nous aimons tous, bien sûr... ces salauds de pauvres, on pourrait reprendre cette phrase de Gabin et de etc. C'est une fois, mais on le répète pas une fois. Dans la vie, on dit je t'aime plusieurs fois, voilà, grossement peut-être. Et donc en fait, il faut garder ça. Et c'est ça qui est fort, moi je trouve, c'est de garder cette parole. Et donc effectivement, l'école de la magistrature, ils aiment mes films parce qu'ils projettent le film, ils l'arrêtent, ils stoppent, ils disent, vous voyez, là, le magistrat, il a fait une erreur. Bon, voilà. Donc, ça, au moins, ça sert quelque chose. Ça a un côté, voilà. Et nous, c'est facile pour nous, derrière, assis sur un fauteuil, quelquefois, dont Michel Bernard Roquin, par exemple, sur le dixième chambre, elle est restée quand même 1h45 à l'image. Alors, forcément, elle a fait des erreurs. Mais c'était le jeu. On censure rien, on coupe pas. Et j'ai assisté à la première projection avec elle et le procureur de la République et tout le monde. Elle s'enfonçait dans son fauteuil parce que, forcément, pour les gens qui ont déjà vu le film, il y a une histoire de Pinel, là, c'est un peu limite, quoi, bien sûr.
Bon, voilà. On censure rien, on coupe rien, mais on organise quand même et on choisit. Quand vous filmez ce dernier film, 12 jours, vous avez filmé, je crois, 75 audiences, vous en retenez 10. Qu'est-ce qui fait qu'on va garder une prise, une séquence, plutôt qu'une autre? Est-ce que vous en rendez compte pendant que vous filmez, en disant celle-là, elle est à jeter, celle-là, elle est à garder? Ou c'est dans la salle de montage que tout d'un coup, ces images vont prendre la force et l'importance dont vous aurez besoin pour votre film?
Alors, là où la technologie a vraiment fait des avances, c'est que maintenant, le dernier film, je l'ai tourné 3 caméras. C'est la première fois que je tourne 3 caméras. J'avais déjà tourné des films 2 caméras, mais 3, c'est le top de chez top. Parce que vous ne voyez pas la coupe. Moi, je n'osais pas, parce que à un moment donné, même j'étais un peu comme ça, rouchien et marquais rien, je la marquais, ma coupe, pour montrer qu'il y avait du montage. Mais maintenant, avec 3 caméras, moi j'en avais 2 à moi, et plus une 3e qui tournait avec un chef opérateur. Et c'est vrai que maintenant, avec le montage stéréo sonore, on ne voit plus la coupe. Alors, c'est vrai que c'était des audiences qui duraient 10-15 minutes, parfaites pour le cinéma. Parce que, pourquoi je dis parfait? C'est parce que, c'est pour ça que j'ai jamais fait les assises. Vous pouvez pas faire un film avec les assises. Ça dure 2-3 jours. comment vous allez le réduire, quoi. Donc en fait, il faudrait faire 10 heures, quoi. Et on le voit d'ailleurs apparaître maintenant sur des films comme le Vietnam ou comme d'autres choses. Il y a eu pas mal de films américains, et ils font 10 heures maintenant. Parce qu'en fait, tu peux plus faire une heure et demie sur certains thèmes, quoi. Si on devait faire, par exemple, la guerre d'Algérie, ou, il faudrait faire 10 heures, quoi, parce qu'on peut pas. Donc, la réduction, il faut y prévoir. Donc, là, sur les films de 10-15 minutes, c'est très impressionnant parce que ces juges, c'est des juges. Ils viennent d'arriver, on les a briefés, on leur a dit, vous êtes des juges de la liberté, là. Et vous avez en face de vous des patients qui sortent parfois des unités de malades difficiles. Ce sont des gens, c'est pas facile. Vous en avez tous croisé, nous en avons tous croisé dans le métro, dans la rue. On sait comment il faut se comporter avec un malade psychiatrique. Il faut pas le regarder, il faut pas l'agresser. Et voilà, et s'il faut l'aider, on l'aide, mais c'est difficile. Il faut surtout pas le regarder. Et c'était formidable parce que ces juges qui arrivaient des tribunaux, personne n'avait été formé à ça. Et les femmes s'en sortaient pas mal. On a fait 2 femmes et 2 hommes. Mais les hommes aussi, c'était pas mal aussi, mais un petit peu différent. Les femmes disaient, bon, ben alors comment ça va? Comment ça se passe? Mais ils étaient en cellule, hein, en chambre d'isolement, en chambre d'apaisement. Mais ils essayaient de faire une conversation comme dans un café, comme ça. Et il y a une particularité aussi que je trouve très forte et très belle, c'est que les médicaments font que ces patients ne clignent pas des yeux. Et ils étaient très émouvants. Ils étaient sans psychiatre, il y a un avocat à côté d'eux, et voilà, ils parlent de liberté, la chose la plus importante au monde. La chose qui nous vient de notre quintessence, du massif central, de tout, quoi, c'est de dire, bah, j'ai envie de sortir, quoi. Et on peut les comprendre, quoi. Alors, on va vous dire, mais la caméra, mais est-ce qu'ils sont conscients? Est-ce que tout ça? Ça a été difficile, effectivement. On s'est très vite aperçu, dès le premier jour, avant même le premier jour, que, entre Claudine et moi, il y a un des deux qu'il fallait se sacrifier pour demander l'autorisation. Et l'autorisation devait se passer seul à seul avec le patient. Et non pas en présence des infirmiers ou du psychiatre. Parce qu'on s'était aperçu le premier jour qu'on l'a demandé devant les infirmiers. Et le gars, il disait oui. Oui, ça me gêne pas d'être filmé. Et les infirmiers tout de suite insistaient en disant, bah, tu vas être la vedette. Dis donc, tu fais du cinéma, toi. Et le gars disait, il devenait des blêmes. On s'est dit, oulala, les infirmiers. Parce que j'imagine que moi, j'étais pas revenu dans un hôpital psychiatrique depuis 20 ans. C'est complètement différent maintenant. Donc c'est les infirmiers qui sont enfermés. Et les malades ont une clé maintenant. C'est des unités de 27 personnes à peu près. Le Vinatier est un hôpital très dynamique. Et c'est comme ça qu'ils font. Donc les infirmiers sont enfermés dans leur cage, là. Ils sortent pas. Une cage de verre. Donc, voilà, c'est très impressionnant, quoi.
Là, vous répondez quand même pas complètement à ma question. Qu'est-ce qui fait que, parmi donc, les 75 patients et audiences que vous avez filmées, certaines ressurgissent? Certaines vont être gardées ou pas?
Ben, en fait, moi, je fais des projections à des gens, des cobayes. J'habite Clamart, à côté de chez moi, il y a un directeur d'école primaire qui est à la retraite. Je lui ai montré. Après, je l'ai montré à une autre personne, et puis j'ai eu très peur, parce qu'il m'a dit j'ai une fille, j'aimerais mieux pas que... Voilà, ceux-là, il faudrait pas qu'ils ressortent, parce que j'ai une fille. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Un monstre, quoi. Moi, je veux pas attaquer la maladie psychiatrique, quoi. Je veux dire, les gens souffrent, j'ai pas envie de... Voilà. Une autre personne aussi... m'a dit la France va mal. Oh, j'ai dit attendez là, je suis pas chez Bourdieu là. Là je suis chez Foucault. Donc ça a rien à voir. Donc c'est pas le même monde. La psychiatrie, que ça soit Hollande ou Macron, elle a encore des beaux jours devant elle. Et il y a 1 800 000 personnes qui se soignent. Donc voilà, non. Alors c'est vrai que et donc j'ai déplacé. j'ai déplacé, j'ai mis moins de violents, qui étaient tentants, bien sûr. Hein. Les violents, ça... Voilà. Donc on a viré des violents très forts, et on a pris des plus doux. Voilà. Pour que... Parce que je n'avais pas beaucoup de doux, mais il y en a quand même. On a une femme qui a, voilà, un burn-out, quoi, dans une société qui, voilà, et son chef l'embête, quoi. C'est pas sorcier, hein, ça commence là, hein, ça commence à ce moment-là, c'est courant. En plus, la personne était de France Télécom. Non, mais c'est vrai, donc là, ça joue. Et avec le mentor, on s'est remis en question, on s'est dit peut-être qu'on a été trop loin, il faut faire attention à la violence, il faut faire attention à ça. C'est un peu comme en photographie, il faut... Voilà, c'est toujours le problème de photographier les victimes, la douleur. Qu'est-ce qu'on en fait ? Puis après,
il y a cette photographie de Gilles Caron que vous montriez justement dans les années des clics, photographie terrible où Gilles Caron vous photographie en train de filmer. Un enfant au Biafra, enfant décharné, affamé, avec cette position surplombante de la caméra. Vous la revoyez comment, cette photo, aujourd'hui ?
Gilles était gêné. Et il m'a dit, est-ce que je peux m'en servir de cette photo ? Bon, Gilles était un ami, on avait été ensemble au Biafra. Et moi, j'avais une caméra, lui, il avait un appareil photo. Et à un moment donné, il y avait effectivement un petit enfant qui était par terre, et je me suis penché sur cet enfant, et il m'a fait une photo de moi en train de faire cette... Je pense que... Non, il faut la montrer, mais il faut pas la sortir de son contexte, quoi. Enfin, voilà, je crois qu'il faut la montrer dans un contexte bien précis. Le photographe, faut faire attention, voilà, peut être transformé en prédateur, ou peut se transformer en prédateur, ou sans s'en rendre compte, etc. Maintenant, on fait plus attention. Moi, je crois qu'il y a eu beaucoup, quand même, de questions qui se sont posées, à la fois, bon, voilà, de photographier les enfants, de faire des photos de tout ça, etc. Voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours complexe, parce que, en fait, si on veut vraiment rendre service à des gens qui sont ces gens-là, il faut pas qu'ils posent. Parce que les photographies en train de poser, c'est pas bien. Moi, je vois, par exemple, j'ai beaucoup été dans le nord du Tchad. Ce sont des Toubous. C'est une population qui est là depuis 25 siècles. Et ils sont noirs, très fins, très trucs. Ils sont les seuls noirs du désert. Les autres sont arabes. Donc les Touaregs sont arabes et les Maures sont arabes. Et on sait pas d'où ils viennent, bien. Ils sont très résistants, et moi j'ai vraiment... et je suis resté une fois 8 mois avec eux, je les connais bien. Et je sais que pour montrer cette aisance, cette grâce, c'est un peu comme... il faut faire des instantanés. Et c'est un peu comme un jeune photographe qui me dit « Monsieur Depardon, est-ce que je peux faire une portrait de vous et si vous pouvez poser ?» Je dis « Oui, bien sûr, mais il vaudrait mieux faire des photos de moi quand je me rends pas compte. Parce que peut-être que je suis plus intéressant, je bouge les mains, je fais ci, je fais ça. » J'avais l'impression que quand je me vois en photo, je suis mieux sans que je m'en rende compte qu'on me photographie. Alors je pense que aussi les autres gens... Mais c'est vrai que c'est violent. C'est violent parce que vous êtes sur une route, vous êtes en Bolivie, il y a 2-3 endroits, ils aiment pas trop la photo. Notamment à Tarabuco, par exemple, il y a un marché formidable. Les gens, ils sont là, ils ont les mêmes casques, les conquistadors. Enfin, c'est des Quechuas impressionnants, ils sont tout en noir et tout. Et bon, à la rigueur, vous pouvez en payer un, lui demander de payer, faire une photo, mais ça sera pas bonne. Et moi, je viens de faire un livre, là, en noir et blanc, j'allais très vite, tchouk, en souriant. Pouf. Merci. Tchouk. Et je partais vite, hein, parce que, mais c'était comme ça. Mais je sais que, au fond, je pense que je les ai pas trop trahis. Enfin, ils ont un rapport avec l'occidental, avec la photo qui, c'est pas tellement qu'ils veulent pas être photographiés, c'est qu'ils, voilà, ils veulent pas être agressés, c'est la même chose que Basalia. Basalia, il me dit, fais des photos quand j'étais dans les hôpitaux psychiatriques, parce que sinon, on va pas nous croire. Et c'était, sa phrase était puissante. Et je lui dis, mais, il me dit, oui, tu sais, Raymond, tu peux pas faire des photos en France, tu peux pas faire des photos, en Amérique. Ici, tu peux les faire parce qu'il n'y a pas de droit à l'image en Italie. C'est pour ça que tu peux les faire. Mais tu es investi d'une sacrée mission. Donc maintenant, il faut que tu portes cette mission en disant, effectivement, dans les années 70, les hôpitaux psychiatriques étaient débordés, entassés, etc., etc. Aujourd'hui encore, on peut pas filmer, on peut pas faire de photos dans les prisons et dans les hôpitaux psychiatriques en France. C'est pour ça que j'insiste sur l'histoire de l'école de la magistrature qui m'a sauvé la vie. Sinon, le film n'existerait pas. Il serait pas possible. Donc, l'école de la magistrature fait avancer un peu les choses parce qu'ils disent qu'ils ont besoin, voilà, pour former les nouveaux juges, ils ont besoin de montrer. Moi, je sais que quand j'ai fait un film sur la police, ils l'ont montré aux policiers non-stop, en boucle, sans arrêt. Parce que, et puis Weissmann, c'est pareil. Weissmann, la Constitution américaine, elle est formidable parce qu'il y a l'article 2 de la Constitution américaine qui disent, et ils sont plus en avance que nous, les États-Unis, bien sûr, ils disent, toutes les institutions doivent être transparentes. Donc il a pu tourner des tribunaux pour enfants. Imaginez, c'est impensable en France. Et c'est un peu dommage que c'est arrêté, parce qu'il y a beaucoup de souffrance aussi là-bas. Alors, elle n'existe pas, cette souffrance, parce qu'on la voit pas, mais on s'en devine. Il y a encore un magistrat, il y a pas longtemps, il y a une semaine, qui m'a dit, si vous pouviez tourner un film, monsieur Depardon, sur les tribunaux, sur les juges pour enfants. Et j'ai dit, j'imagine, quoi. J'imagine, mais c'est extrêmement complexe. Je le ferai jamais, ce film. Moi, je m'en sens pas d'attaque et tout ça. Parce que c'est lourd, c'est difficile. Il y a les parents, il y a tout le monde. Et j'imagine la position du juge, des JAF, là, les juges des affaires familiales, ils voient des choses que, voilà, et le soir, ils rangent, ils prennent le métro, ils rentrent chez eux, quoi. Ben, voilà. Et c'est vrai que, peut-être, à ce niveau-là, il y a des moments, il y a des exceptions.
Vous avez mentionné, parce qu'on n'a pas encore parlé, un livre que vous venez de faire. On a parlé de photographie, on a parlé de cinéma. Il y a aussi le travail de l'écriture, parce que vos livres, ce ne sont pas juste des collections de vos photographies. Souvent, les photographies dialoguent avec des textes. Et ces textes, c'est une pratique quotidienne aussi, comme celle de la photographie. Vous tenez un journal, vous prenez des notes, comme ce premier livre vraiment qui affichait ce travail de réflexion.
Malheureusement, moins maintenant. Mais quand j'étais seul, oui, je suis resté très longtemps. Être photographe, ça veut dire être très longtemps seul. Il faut aimer la solitude. C'est un truc qu'il faut vous adapter. Et j'écrivais, et c'est vrai que j'avais été très marqué par mon père qui était né en 1903. Donc à la guerre de 14, il avait arrêté l'école pour reprendre la ferme, et il ne faisait jamais aucune faute d'orthographe. Il m'avait écrit plusieurs fois. Il est arrêté l'école à 11-12 ans. Et je sais qu'il avait dit des mots comme ça, très forts, comme ça. Il disait des mots très forts. Et moi, j'ai malheureusement pas son don. Mais je sais que, je raconte toujours cette anecdote, mais que je trouve, c'est toujours bien de parler de littérature, de mots, parce que, on a toujours un peu tendance à croire que, voilà, d'un côté, il y a les écrivains, et puis de l'autre côté, après, il y a le monde entier qui travaille, les paysans. Et j'étais venu avec une jeune fiancée, quand j'avais une vingtaine d'années, à la ferme du Garret. Mon père était vivant, et je l'avais un peu présentée comme ma fiancée, et puis, elle s'appelait Yvette, et je l'ai pas ramenée, elle est pas revenue. Voilà. Et donc mes parents se sont posés beaucoup de questions, comme tous les parents du monde. Donc quelques mois après, je suis revenu, et puis en marchant, et comme un père qui n'ose pas tellement parler de ça à son fils, hein, c'est pas facile, il m'a dit, avec Yvette, ça n'a pas accordé. Waouh ! Je me suis dit, voilà, le mot est beau. Hein. Et c'est vrai que, voilà, comment viennent les mots, et je trouve que la deuxième personne qui m'a aidé, qui m'a poussé un peu à écrire, un peu, tout à fait relativement, avec toute ma modestie, c'est Barthes. Parce qu'effectivement, Barthes avait, il disait, dans une revue de la communication, il disait, les mots peuvent venir avec une image, soit ils sont ancrage, c'est-à-dire que légende, quoi, comme un ancrage, soit ils sont relais. Et moi, j'avais trouvé ça très intéressant d'être relais. C'est-à-dire que, alors quelquefois, ça m'a valu même des situations assez incroyables. Je me souviens que dans la correspondance new-yorkaise qui a suivi Note, j'ai fait une photo des lavabos sur Park Avenue, l'avenue la plus chère de New York. Et on était au mois de juillet et j'envoyais donc cette photo tous les jours, j'envoyais une photo à Libération. Et je sais pas, mais ça m'est venu instinctivement comme ça, j'ai pas préparé, je me suis pas dit tiens ça. J'ai pensé au foin à la ferme de mes parents où c'était la période donc. J'ai dit et j'ai parlé des foins dans les dombes sur Park Avenue. Donc c'est quand même assez drôle. Voilà, là le relais il était fort quoi. Mais c'est voilà, donc effectivement, je m'étais aperçu que quand je faisais des photos, des fois je pensais à autre chose. Et je pouvais penser à une femme, je pouvais penser à quelque chose. J'étais assez rêveur, moi. Et donc, cette photo, parce que c'est... vous savez, le photographe, il marche au mérite, comme tout le monde. Il y a des moments où on dit, oh, j'ai mérité cette photo, parce que j'ai souffert pour la faire, et je la voulais la faire, et j'ai voulu faire. Donc on marche au mérite. Et puis tu la montres à des gens, et puis c'est le fiasco. Bon. Alors on est très vexé, quoi, bien sûr, parce que... Et puis il y a des photos qu'on fait, justement, on pense à autre chose, on appuie en ce moment-là, et tout le monde dit « Génial, formidable, Raymond, t'es vraiment un grand artiste ». Donc on peut se dire quand même des fois, j'ai des doutes sur le talent de photographe, parce que des fois la photographie, ça arrive comme ça, il suffit d'appuyer. On l'a tous fait, ça. On a tous été quelquefois des grands photographes, avec un téléphone, on peut être des grands photographes.
Merci beaucoup, Raymond Depardon. On arrive à la fin de cette rencontre. Je me demandais si dans tout ce que vous avez photographié ou filmé, il y a un film, une photographie pour laquelle vous avez une tendresse particulière. Non pas que vous soyez fier de l'avoir fait, que ça serait la meilleure photographie ou le meilleur film de Raymond Depardon, mais un film pour lequel, voilà, ou une photographie avec lequel vous avez un rapport particulier.
Ben, c'est vrai que c'est... J'aimerais bien refaire un film. Je suis pas sûr que j'ai les moyens, mais j'aimerais bien refaire un film avec l'écriture.
Merci infiniment à tous d'être venus.
Merci.
C'était la masterclass de Raymond Depardon avec Antoine Guillot. Coordination, Arnaud Laporte. Attaché de production, Chouchane Djergaillant.